c'est parce que Radio Capéuné le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
La République démocratique du Congo est un pays riche en ressources forestières. Cependant, la gestion de ces forêts pose un problème. Pour cause, on cite par exemple la coupe intensive de bois par les populations autochtones, l'agriculture sur brûlis, nous avons l'exploitation industrielle des forêts. Bref, il y a une forte pression qui est exercée sur les forêts. Alors aujourd'hui, comment assurer une meilleure gestion des ressources forestières de la RDC? Pour en parler, nous recevons M. Philippe Mandanga et Poyo, il est ingénieur forestier. Alors, M. Philippe, la première question, pouvez-vous d'abord nous présenter les forêts de la RDC?
Évidemment, il est reconnu que la RDC est essentiellement forestière parce que la forêt occupe autour de 155, même à 160 millions d'hectares, et c'est très important, ces forêts qui regorgent autant d'essences forestières de grande valeur commerciale, ces forêts qui, depuis des millénaires, assurent la vie, la survie de toutes les populations. Donc, il est important de prendre en compte ces secteurs importants pour le développement de ces pays.
Et certains disent que les forêts de la RDC constituent le poumon mondial.
Bien entendu que oui. Bien entendu que oui. Nous sommes le deuxième poumon mondial. Quand on considère que le Brésil, avec l'Amazonie, est le premier poumon. Mmh. Oui.
Alors, aujourd'hui, quel état des lieux vous faites par rapport aux forêts de la RDC?
Oui, l'état des lieux est pratiquement favorable. C'est-à-dire les forêts existent. Mais maintenant, il faut une certaine organisation, une certaine gestion cohérente qui puisse mener à une gestion durable de ces forêts pour que ça puisse être porteur de croissance.
Alors comment peut-on parler d'un état des lieux favorable alors qu'il y a une forte pression exercée sur la forêt aujourd'hui, les autochtones avec la coupe des bois, l'agriculture sur brûlis, nous avons aussi l'exploitation industrielle du bois. Est-ce qu'on peut dire que la situation est bonne aujourd'hui?
La situation n'est pas bonne, il y a des raisons. Il y a même de l'histoire qui peut démontrer pourquoi nous sommes à ce niveau-là. Nous pouvons partir, par exemple, de la loi, parce qu'il s'agit ici de lois et de textes légaux, n'est-ce pas, qui puissent être élaborés et surtout appliqués pour arriver au résultat escompté. Si nous partons, par exemple, de la loi de 1949, cette loi est élaborée essentiellement pour la colonisation. Donc, au fil des années après l'indépendance, on a mené des réflexions. On a trouvé que cette loi n'était que pour le bien-être des colons. Alors, elle s'est avérée insuffisante. L'ensemble de réflexions depuis l'indépendance jusqu'en 2002 a poussé la nation à pouvoir élaborer une nouvelle loi, une nouvelle loi qui doit porter un changement radical, un changement positif pour le bien-être du pays.
Alors quand on parle d'une gestion efficace et durable, qu'est-ce que cela veut dire?
Cela veut dire ceci, parce que dans tout secteur économique, il faut d'abord commencer par la loi et textes légaux. Et il ne suffit pas seulement qu'il y ait loi et textes légaux élaborés, mais il importe qu'il y ait l'application stricte, scrupuleuse de cette loi et ces textes légaux. Je crois que c'est là où se trouvent les problèmes maintenant. Mmh. Et quand il y a la loi, il y a les textes légaux qui sont appliqués. Vous allez voir les conséquences positives, c'est-à-dire on va bien appliquer la fiscalité, parce que la fiscalité existe dans les domaines forestiers. Mmh. Alors, quand il y a la fiscalité, avec les respects de la loi et textes légaux, donc on va plus loin. Je vais vous citer un cas, si vous le permettez.
Allez-y.
Oui, nous avons ici, par exemple, la redevance des superficies. Nous sommes là depuis 2001. De 2001 à 2002, vers la fin, on peut même parler du début 2003. Je vous donne un cas, par exemple, d'une superficie, d'une concession forestière attribuée à un exploitant. Une concession de 200 000 hectares.
Qui se trouve où ?
Pardon ?
Qui se trouve dans
une des provinces, parce qu'il y en a, vous pouvez en trouver comme ça deux ou trois exploitants avec la même superficie. Je prends seulement cet exemple-là.
Oui.
Donc, de 2001 jusqu'à début 2003, cette concession-là devait être taxée au taux de, notez bien, 1,00142 dollars par hectare. Et quand vous faites les totales simples, là, les calculs simples, ça vous donne 28 dollars par hectare. Et c'est ça que cette forêt-là doit apporter comme contribution au trésor public. Et nous sommes là jusque 2003. Mais on s'est dit, mais c'est pas normal.
Oui.
Alors, on a pris des mesures pour échelonner un peu ces taux-là qui, de 2003 en 2006, devait partir de la manière suivante. 2003, 0,10. 2004, 0,20. 2005, 0,30. 2006, 0,40. Et en 2007, 0,50. Cette même superficie qui apportait à l'État congolais 28 dollars.
Oui.
Et quand vous faites un simple calcul là-bas, ça vous donne 100 000 dollars. Vous voyez la différence?
Alors, donc, on comprend très bien que pour bien gérer les forêts de la RDC, vous avez dit qu'il faut appliquer la loi, et surtout par rapport aux fiscalités.
Voilà.
Vous donnez beaucoup de chiffres par
justement
rapport à, oui, à ça. Mais est-ce que cela est respecté aujourd'hui, ou il y a quelques petits problèmes? Oui.
C'est là la problématique.
Oui.
Parce que les lois et textes légaux sont là.
Mmh.
Et il faut noter que les textes légaux, peut-être, ne sont pas encore suffisants, mais il faut harmoniser. Il faut peut-être ajouter d'autres textes légaux, surtout en ce qui concerne l'exploitation artisanale. Parce que l'effort a été fait, à mon avis, plus dans l'exploitation industrielle, tandis que l'exploitation artisanale, jusqu'à aujourd'hui, ça pose des problèmes, parce qu'il faut qu'il y ait un décret qui va permettre la mise en œuvre de forêts des communautés locales.
Voilà. Aujourd'hui, par exemple, par rapport aux autochtones, comment arriver à travailler avec eux pour assurer une bonne gestion efficace et durable de la forêt?
Oui, et il faut que toutes les activités soient participatives, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient intégrés dans l'élaboration et surtout pour le respect de ces lois, de cette loi et des textes légaux. Ça, c'est très important. C'est ainsi que parmi beaucoup d'innovations apportées par le code forestier, vous allez vous rendre compte qu'il y a un préalable pour obtenir une concession forestière.
Alors, concrètement, comment intégrer ces communautés à la gestion durable de la forêt? Et qui doit les intégrer?
C'est l'État, et ce sont eux-mêmes les communautés, parce qu'ils ne doivent pas être mis à l'écart. Je vous donne un exemple.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, le code des forestiers dit ceci. Pour obtenir une forêt d'exploitation industrielle, il faudrait que cette société-là puisse d'abord s'entendre avec les populations riveraines, mener des négociations que nous appelons les négociations sur la clause sociale du cahier des charges. Ces négociations-là doivent aboutir à un comité de gestion qui est composé des populations locales et peuples autochtones, et un comité de suivi, c'est comme l'OCC dans ces conditions-là, pour contrôler les comités de gestion. Alors vous voyez comment, dans ces conditions-là, les populations riveraines sont associées à la gestion de leurs forêts, parce que après tout, les revenus qui vont être générés par l'exploitation de ces forêts vont contribuer aux travaux d'intérêt
communautaire.
Oui. Des routes, des écoles, des dispensaires ou hôpitaux même, donc seront comment dirais-je créés à partir de revenus de ces forêts-là.
Bien, des questions et préoccupations. Nous parlons aujourd'hui de comment gérer les forêts de la RDC de façon efficace et durable. Vous voulez participer à cette émission? Appelez-nous au 081 890 63 94.
Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre service de la Radio de la Paix.
Comment gérer les forêts de la RDC de façon efficace et durable? Vous avez dit tout à l'heure, la première chose, c'est la loi. Donc, il faut le respect de la loi qui est là, et intégrer aussi, associer les autochtones, les populations riveraines à la gestion communautaire des forêts. Et qu'est-ce qu'il faut faire d'autre?
Ce qu'il faut faire d'autre, je pense personnellement que nous avons aussi affaire aux conventions internationales, ça c'est mon avis tout à fait personnel, c'est que nous devons aussi avoir un œil regardant dans certains aspects des conventions internationales. Nous sommes producteurs de bois, mais les prix sont fixés par l'extérieur, ça c'est mon constat tout à fait personnel. Quand nous prenons le bois comme la Formosia, sur le plan exploitation industrielle, je pense que c'est la RDC qui est à l'avant-garde. Mais ces bois-là, on se rend compte que le prix est fixé par l'acheteur, comme si l'acheteur se comporte comme vendeur. Alors, des choses comme ça, je crois qu'il faut quand même que l'on ait un regard, un œil regardant pour pouvoir tirer bénéfice en faveur du trésor public.
D'ailleurs, justement, quels sont les avantages que l'on peut tirer d'une bonne gestion forestière? Lorsque la forêt est bien gérée, quels sont les avantages qui en découlent?
Les forêts peuvent être considérées comme porteuses de croissance.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que, je vais vous donner là l'exemple de la redevance des superficies. Jusqu'au moment où nous parlons, les taux utilisés pour les calculs de la superficie, c'est 0,50 dollars par hectare. Ça nous amène un calcul tout à fait normal quand nous considérons que notre superficie exploitable est de 9 millions d'hectares.
Voilà. Donc, on retient que d'abord, vous avez dit les avantages. Donc, les forêts sont porteuses de croissance.
Oui.
Autre chose. Qu'est-ce que ça apporte encore comme avantage?
Ça apporte l'amélioration des conditions de vie des citoyens, des populations locales de manière générale.
Mm-hmm. Oui. Autre chose,
quand les conditions de vie sont améliorées, je crois que nous sommes plus sollicités par l'extérieur dans ce sens que on peut amener beaucoup d'investisseurs dans les pays.
Bien, nous avons un auditeur en ligne, Mavé Kisambika, il nous appelle de Kananga. Bonjour Mavé.
Bonjour Rodi, bonjour à l'invité.
En vous écoutant.
Merci, aujourd'hui j'avais une petite question à poser à notre invité.
Oui.
Je voudrais savoir si tu peux nous donner des mécanismes que les autorités peuvent appliquer au niveau provincial ou national pouvant mener à une meilleure gestion rationnelle de ressources forestières dans notre pays. Tu peux nous décrire quelques mécanismes rationnels que les autorités peuvent en principe appliquer au niveau provincial ou national pour le maintien durable des gestions rationnelles de nos forêts sur l'étendue de la RDC. Voilà.
Merci bien. Alors, M. Philippe, vous avez la parole.
Oui, il y a ici question de sensibiliser les populations locales, d'informer, de les former, pour leur démontrer que les forêts constituent un secteur très important pour le développement, surtout dans la mesure où les forêts sont renouvelables. Parce qu'un arbre coupé peut être remplacé par un autre arbre, quand on applique les méthodes de la silviculture, par exemple, soit par des graines, soit par d'autres possibilités, parce qu'il y a des boutures qui peuvent aussi être utilisées pour reboiser les forêts. Donc, par le reboisement, par exemple, on fait un cercle vicieux. On coupe une forêt. Après un certain nombre d'années, même si ça peut prendre beaucoup d'années pour notre cas, parce que parfois ça peut arriver même jusqu'à 70 ans. Dans notre domaine, nous disons, le forestier est en train de planter pour ses enfants et pour même ses petits-enfants.
Et pour des générations futures.
Pour des générations futures.
Et pour, par exemple, pour le reboisement, qui doit s'en charger? Est-ce que c'est l'exploitant ou il revient aux communautés locales ou c'est au gouvernement, la tâche revient au gouvernement de pouvoir faire le reboisement?
Oui, suivant une certaine expérience vécue, donc on s'est rendu compte que l'exploitant étant un commerçant, donc lui n'a pas le temps, n'a pas suffisamment de temps de suivre un arbre planté. Parce que quand un arbre est planté, donc il nécessite un certain suivi comme un enfant qui est né. Et quand l'enfant est né, on ne l'abandonne pas comme ça. Il faut le suivre, il faut l'entretenir, ainsi de suite, pour que l'enfant grandisse. Et il en est de même pour un arbre qui est planté. Donc l'exploitant, lui, étant un commerçant, il veut vite tirer son bénéfice et puis partir. Alors, et cette méthode-là, on l'a expérimenté, on a trouvé que c'est inefficace. Alors, à un moment donné, on s'est dit, si vous pouvez vous souvenir du fonds de reconstruction du capital forestier qui devait s'occuper de reboisement. Bon, l'expérience semble toujours non concluante, dans ce sens que la gestion même des ressources générées par des taxes liées à l'exploitation, si la gestion n'est pas saine, donc on tombe dans les mêmes pétrins. Et donc ici, il y a question de bien gérer les ressources, parce que maintenant nous sommes passés du fonds de reconstitution du capital forestier au fonds forestier national. Il y a toujours des ressources. Mais est-ce que ces ressources sont bien gérées pour assurer un reboisement conséquent? Point d'interrogation.
Voilà. Lambert Lotanga nous appelle de Kindu. Bonjour Lambert.
Oui, bonjour Jerry.
Quelle est votre question?
Bonjour. Oui, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Je veux savoir combien d'hectares s'exploitent par an dans notre forêt de la RDC, EDD, et combien d'hectares aussi on reboise pendant l'année dans cette même forêt par les exploiteurs. Merci, c'est ça ma contribution.
Merci bien, Monsieur Philippe.
Ok, il y a plusieurs niveaux de ces reboisements-là. Quand nous parlons de reboisement des essences essentiellement forestières, c'est-à-dire des essences forestières à valeur commerciale, c'est encore aléatoire. Ça, il faut nous assurer. Mais quand nous pouvons parler, par exemple, des essences pour les besoins de bois de chauffe ou de charbon de bois, là, on peut estimer que ça avance. Mais jusque-là, c'est encore insignifiant. Donc, un effort très important doit être mené et par la nation pour assurer ces reboisements-là. Parce que nous avons des espaces où nous trouvons beaucoup de savanes, et surtout quand vous survolez les territoires nationaux, il y a beaucoup d'espaces où nous trouvons, par exemple, là-dedans, des bosquets, c'est-à-dire des petites forêts qui se trouvent en pleine savane. Cela veut dire quoi? Ce sont des reliquats de forêts qui existaient depuis des années, des milliers d'années. Alors, à cause des actions diverses, et il se pourrait que des actions anthropiques, était mené, donc ça détruit la forêt. Mais l'existence de ces reliquats-là montre que si nous menons des actions de grande envergure pour les reboisements, on peut reconstituer les forêts dans ces espaces.
Alors, lui veut savoir exactement combien d'hectares ont été exploités et combien d'hectares reboisés. Est-ce qu'on a, au moins les estimations?
Bon, on peut estimer, parce que nous travaillons avec les exploitants industriels, facilement, quand nous comptons les permis de coupe que nous donnons, parce qu'un permis de coupe doit avoir un certain nombre de d'hectares. Si nous prenons la moyenne, par exemple, de 1000 hectares par permis de coupe, ça c'est le maximum. Mmh. Donc, et si nous octroyons 100 permis de coupe par an, faites un petit calcul là-bas, vous trouverez que 100 multiplié par 1000, ça vous donne 100 000 hectares qui est octroyé. Là, je vous donne tout simplement un chiffre indicatif, mais jusque-là, ce n'est pas encore pleinement...
Et les reboisements ne suivent pas.
Les reboisements ne suivent pas en d'autres termes.
Donc, ce qui est dommage, ça peut faire dire à certains que les forêts de la RDC sont en danger.
Et les forêts de RDC sont en danger, oui. Je vous ai dit, il s'agit ici de la mise en application stricte de ces lois. Parce qu'il y a un service national que nous appelons Fonds forestier national, qui a remplacé le Fonds de reconstitution du capital forestier. Alors, les services n'existent pas sans loi, sans texte légaux. Mais si on arrive à appliquer ces lois-là, c'est-à-dire...
Mais nous avons des lois dans ces pays, des lois bien élaborées. Ouais. Le service existe. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que ces services n'arrivent pas à reboiser aujourd'hui? Peut-être qu'il y a des financements qui arrivent, mais qui sont détournés.
Voilà. C'est, disons tout simplement qu'il y a insuffisance de financements. Parce que quand nous parlons vite dans les services de reboisement, ce n'est pas une mince affaire. Ça demande des gros investissements avec des engins lourds qui doivent travailler. Je crois que jusque-là, même si on peut parler de la mauvaise gestion des ressources disponibles, mais ces ressources sont insuffisantes.
Comment gérer les forêts de la RDC de façon efficace et durable? Ogui Bendelo nous appelle des Kikuit. Vous voulez également participer, appelez-nous au 081-890-6394.
Radio Capi, un partenariat entre la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien du gouvernement de la Belgique, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse.
Comment gérer efficacement les forêts de la RDC de façon efficace et durable? Philippe Manzanga et Poyo, ingénieur forestier, et notre invité, Ogui Bendelo, vous nous appelez des Kikuit, hein, et Emile Ngandou des Kananga. On commence avec Ogui, bonjour.
Bonjour, je dis dans un cas, c'est un magistrat, aussi notre invité, monsieur Philippe.
Quelle est votre question?
La question est de savoir comment gérer les forêts de la RDC d'une façon efficace. L'invité venait et l'explique que le principe, il a parlé d'une certaine gestion. Il faut appliquer la loi, il faut qu'il ait un décret, un comité de suivi et un œil regardant. Mais c'est aujourd'hui que nous ne voyons pas. Il y avait, la fois passée, des grumes de bois saisies au port de la Belgique en provenance de la RDC. Et il y avait aussi des milliers de planches qu'on avait trouvées avec certaines personnes, je ne sais pas où ils se rendaient, sur le lac Tanganyika. Alors, suivant notre invité, j'ai voulu poser la question. Les personnes qui étaient saisies avec des grumes de bois et des planches en provenance de la RDC, jusque-là, on ne sait pas, nous sommes restés dans les noirs, ils sont allés où et quel est leur site.
Voilà, vous dites que des personnes ont été saisies avec des grumes en Belgique et d'autres tentaient de traverser le lac Tanganyika avec des planches. Ils ont été saisis, il n'a pas la suite. Bon, ok, on va poser la question tout à l'heure à notre invité par rapport à ça.
Okay.
Merci, Ogui. Emile Ngandou, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute.
Bonjour.
Oui, moi j'ai un conseil amer que je suis en train de faire sur... l'exploitation illégale des forêts de la RDC. Mmh. Parce que si vous prenez, la RDC a vraiment une superficie très grande. Hein?
Oui.
Et je vois que en RDC, on est plus basé sur l'exploitation minière que l'exploitation forestière. Lorsque vous prenez les conséquences qui sont tirées de cette exploitation illégale sur le plan économique, vous verrez que beaucoup de sommes d'argent fuient les trésors publics à partir de cette exploitation illégale. Sur le plan culturel, vous verrez que il y a certaines espèces des animaux qui fuient par l'abattage des arbres en désordre. Sur le plan social, vous verrez qu'il y a même certains hommes, comme les pygmées, qui vivent dans les forêts, qui sont dispersés par cette exploitation illégale, par les déboisements en désordre. Tout ça, ça crée un frein au développement de la RDC. Mais je voulais un peu poser une petite question à l'invité. Il peut m'expliquer si les forêts de la RDC sont placées parmi le patrimoine culturel de l'UNICEF.
Merci. Monsieur Philippe.
Ouais, je me rends compte que toutes ces questions-là tournent autour de l'application de la loi et des textes légaux. Parce que quand on parle de l'exploitation illégale, ça dit que quelqu'un a pris ses moyens de scie mécanique et consorts, il entre en forêt sans document préalable, il entre dans la forêt, il coupe. Mais les lois sont là. Nous, nous sommes dans une... comment dirais-je? Il y a des pouvoirs. Hein? Il y a le pouvoir judiciaire qui doit appliquer la loi. Alors, quand vous posez cette question à l'administration, les lois sont là, mais si on attrape quelqu'un qui a coupé illégalement la forêt, je crois qu'il appartient maintenant à la justice de faire son travail. Et telle est la réponse aussi pour les cas qu'on a attrapés en Belgique. Bon, il faut que la loi soit appliquée. Donc moi je trouve que toutes ces questions-là...
Mais il dit qu'on n'a jamais eu des suites, même certaines personnes ont été attrapées en train de traverser le Tanganyika avec des planches.
Ouais.
Jusqu'à là, il n'y a pas de suite. Hein.
Ok, s'il n'y a pas de suite, l'administration forestière fait son travail, il donne des documents légaux, donc des titres légaux, comme une concession forestière.
Donc parfois, ces gens... généralement, il y a des gens aussi qui font l'exploitation illégale, mais ils arrivent à corrompre les services de l'État.
Voilà.
Et facilement, c'est fini.
Tout à fait.
Y a
tout à fait.
Hein.
Quand les corrupteurs et les corrompus sont attrapés par la loi, il faut exercer la loi.
L'impunité, les gens fonctionnent de cette façon depuis plusieurs années à cause de l'impunité.
Je vous ai dit dès le début que les lois sont là. Peut-être encore... Les textes légaux sont encore insuffisants, mais on est en train de faire un effort pour harmoniser toutes ces lois-là, mais la question de l'application stricte des lois et textes légaux se pose avec acuité.
Donc on comprend que si ces lois sont bien appliquées, alors on peut s'attendre à une bonne gestion efficace
Absolument.
Et durable des forêts de la RDC.
Absolument.
Absolument.
Ouais.
On va terminer avec Touli Makim qui nous appelle des Bandundouville. Bonjour. Touli Makim, bonjour.
Bonjour et bonjour à l'invité.
Bonjour.
Quelle est votre question?
En fait, avant de poser ma question, je m'attelle vraiment beaucoup plus sur les dangers que court le forêt, évidemment, de la RDC. Maintenant, je voudrais dire ceci. À chaque vision, il faut une provision. Il faut que, en fait, que l'État prenne ses dispositions. Quand vous interdisez, par exemple, un déboisement, qu'est-ce que vous prévoyez à la population qui vit de la forêt? Ça, c'est une question qui me retient à la gorge. Maintenant, il faut évidemment soutenir cette dite population qui vit évidemment de la forêt. Autrement, afin de pouvoir éviter ces phénomènes. Parce que si vous n'atteignez pas sur ces problèmes-là, ces phénomènes continueront jusqu'à la fin. Puisque cette population n'a pas, en fait, un moyen de vivre, elle doit recourir évidemment à la forêt pour afin de pouvoir survivre. Et maintenant, j'ai dit qu'il y a aussi l'exploitation illégale de certaines personnes, donc des étrangers qui viennent exploiter le forêt de façon clandestine. Maintenant, je pose la question. Est-ce que les blancs qui viennent exploiter le bois ici en RDC sont permis d'avoir une exploitation forestière artisanale? Ça, c'est ma question. Puisque nous remarquons ces industries, cette île ici, avant de nous vivre, dans des forêts, en fait, la province de Bandundu en train d'exploiter les forêts de Bandundu sans pour autant qu'il y ait un permis d'exploitation forestier officiel. Donc, c'est
bien.
Ça, en fait, ma préoccupation.
Merci.
Je veux avoir un éclaircissement par rapport à ça.
Monsieur Philippe.
Ok. Au cours de notre partage ici, nous avons parlé de méthodes participatives. Donc, les populations locales sont appelées à être associées. Ça, c'est l'État qui organise ça.
Ah, d'abord, il dit, lorsqu'on a interdit à la population d'exploiter le bois,
voilà.
Quelle est l'alternative?
J'en arrive. Dans la gestion participative, ça permet à organiser certaines actions de restitution, c'est-à-dire le remplacement des activités de populations locales. À supposer que ces gens vivent de la chasse, par exemple. Bon, maintenant, quand vous interdisez à ces populations de pouvoir abattre les animaux, les gibiers, tout ça. Mais il faut créer une activité alternative, par exemple l'élevage, l'élevage par exemple des porcs, l'élevage des chèvres, tout ça.
Voilà.
Alors, quand ils sont bien nourris, ils vont oublier la forêt, donc les animaux vont se multiplier d'eux-mêmes.
Oui.
Donc, il faut créer des activités
alternatives. Voilà. Et il dit, parle d'un blanc qui vient exploiter, il dit, dans la province du Bandundu, c'est fréquent de voir des gens, ils ont l'exploitation artisanale de bois sans permis. Tout ça, ça s'est fait au vu au sud de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a la corruption. Les services de l'État sont corrompus. Voilà, les gens exploitent sans permis.
Encore une fois, c'est le problème de l'application de la
l'application
loi.
L'application de la loi.
L'application de la loi, je voudrais ajouter rapidement, c'est qu'il y a un problème là, même au niveau de moyens de contrôle. Pour le moment, il y a un projet de SGS. SGS, c'est la société mère qui nous a laissé l'OCC. Alors, ce projet-là, c'est un projet de la Banque mondiale qui est en application maintenant. Je crois que à l'issue de ce projet, c'est-à-dire au terme de ce projet, donc c'est l'administration forestière qui va s'approprier de ce projet pour que le contrôle soit efficace. Autre chose, les étrangers qui se mêlent là-bas, parfois c'est en complicité des Congolais qui se présentent à l'administration comme Congolais, mais derrière eux, ce sont les étrangers.
Mmh.
Alors c'est tout cela qui fait problème.
Oui.
Maintenant, l'administration forestière locale n'a pas ces moyens-là, ces moyens financiers, ces moyens matériels pour pouvoir suivre ce qu'ils donnent comme titre forestier, permis de coupe de bois, par exemple. Nous analysons au bureau les sites de coupe, nous localisons. Mais quand les exploitants arrivent sur le terrain, ils font n'importe quoi. Alors il faut équiper l'administration forestière pour ne pas se cantonner dans des bureaux, mais que l'administration forestière soit mobile et pour suivre, même pas seulement pour les infractions, mais pour suivre techniquement, parce qu'il faut transmettre les compétences, donc le renforcement des capacités. Je crois que petit à petit, on va arriver au résultat escompté.
Bien, Émile, on va terminer avec la question d'Émile de Kananga qui veut savoir si les patrimoines, les forêts de la LDC font partie du patrimoine culturel de l'UNICEF.
Ça, je ne saurais pas tellement vous répondre, mais jusque-là, il n'y a pas
une loi. Il a parlé de l'UNICEF, qui... c'est pas l'UNESCO, peut-être, il veut parler de l'UNESCO.
Si c'est de l'UNESCO, non, on n'en est pas encore là. Les forêts congolaises reviennent entièrement comme patrimoine congolais, mais jusqu'à la preuve du contraire, je ne peux pas confirmer cette assertion.
Bien, pour bien gérer efficacement les forêts de la RDC, vous avez dit c'est le respect des textes, le respect de la loi,
ouais.
Et c'est ça qui peut garantir une bonne gestion. Monsieur Philippe Manzanga et Poyo, ingénieur forestier, merci.
Merci.